c'est d'actualité parce qu'il y a l'augmentation du carburant, l'augmentation de tout en fait, hein, les produits alimentaires, les loyers, et c'est pas très nouveau que ça augmente hein, en fait, ça fait des années que ça augmente. Alors c'est vrai que là il y a des périodes comme ça où ça augmente beaucoup plus vite, est-ce que c'est le cas du carburant ou est-ce que c'est le cas de l'énergie. Voilà, donc en fait on a un problème qui nous est posé, c'est celui du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais on sait qu'en tout cas la difficulté qu'on a de consommer aujourd'hui, de consommer, de pouvoir avoir des besoins, enfin de satisfaire nos besoins fondamentaux, ben c'est la question du salaire qui est trop petit ou du revenu qui est trop petit. Donc nous on discute qu'il faut un SMIC à 1800 euros net minimum. Alors on ne dit pas 1800 euros net parce qu'il fallait fixer un chiffre ou qu'il fallait faire mieux que l'autre candidat de gauche hein. L'idée de 1800 euros net, c'est d'essayer de mesurer à partir de quel revenu on peut vivre correctement. Et nous on pense qu'en dessous de 1800 euros net on ne peut pas vivre correctement, mais on pourrait presque le dire aujourd'hui à 2000 euros net en dessous, vu l'augmentation des prix aujourd'hui. Et donc c'est la question d'essayer de repérer un niveau de revenu qui permette de vivre correctement. Et c'est pas juste un salaire hein, c'est aussi pour les pensions retraite, c'est aussi pour les indemnités des chômeurs, c'est aussi la question de l'allocation adulte handicapé qui aujourd'hui est à 903 euros, hein, donc bien en dessous déjà du seuil de pauvreté qui est fixé aujourd'hui à 1100 euros. Donc voilà, c'est à chaque fois d'essayer de poser le problème d'un revenu qui nous permet de vivre correctement. Et là aussi sur la question du revenu, il y a le revenu d'autonomie pour la jeunesse étudiante, de manière à ce que les étudiants, les jeunes ne soient pas obligés d'aller se faire exploiter chez McDo ou ailleurs et de se compliquer la vie et de compliquer aussi les conditions d'études et de se donner plus de chances finalement de rater leurs études. Donc il faut absolument discuter d'un revenu pour tout le monde qui permette de vivre correctement et qui permette d'avoir, d'avoir des droits, et c'est un problème de démocratie en fait qui est posé. Donc on défend ça. Alors là je vais parler aussi de la retraite et du temps de travail, et après on discutera, ouais, j'essaierai de dire en fait à partir d'où on peut avoir ces choses là parce qu'en fait dès qu'on défend un revenu à 1800 euros, ou alors là je vais en parler, la question de la retraite, nous on pense qu'il faut la retraite à 60 ans hein, c'est une vieille revendication, mais c'est surtout que ça existait à un moment donné hein, c'est pas si vieux que ça hein, il y en a qui n'ont pas connu la retraite à 60 ans, mais ça existait, et y compris même dans le cadre du capitalisme, une retraite à 60 ans et puis surtout avec 37 annuités hein, c'est-à-dire en fait la durée de cotisation, la durée de la vie professionnelle, de manière à ce qu'on soit sûr d'arriver à 60, parce que quand on étudie et qu'on commence à travailler à 25 ans, il faut bien aussi avoir une durée de vie professionnelle qui soit limitée, de manière à ce qu'on puisse partir à 60 ans. Donc les 60 ans pour nous c'est fondamental, c'est la question aussi de la retraite à 55 ans pour les travaux pénibles, et de contrer tous les arguments qui disent que finalement la retraite à 65 ans ou la retraite à plus c'est normal parce qu'on travaille plus longtemps, on vit plus longtemps. Et parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait accepter l'idée qu'on travaillerait plus longtemps. C'est une sorte de logique qui pour nous n'est pas du tout logique. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'est pas des fans du travail, déjà, d'une part. Mais en fait, on voit pas pourquoi il faudrait, parce qu'on vit plus longtemps, travailler plus longtemps. Parce qu'on n'est pas obligé d'occuper sa vie à travailler, en fait. Et donc, c'est d'essayer aussi d'expliquer ça. D'expliquer d'une part que le progrès social ou le progrès même, le progrès technologique, le progrès scientifique, le progrès de la productivité, ça devrait permettre justement à l'ensemble des populations de pouvoir profiter de ça. Et profiter de ça, ça veut dire passer moins de temps à travailler. Bon, parce que c'est vrai que le travail au départ, c'est produire les moyens de subsistance pour la société. Mais à partir du moment où on peut produire largement avec les moyens techniques, pourquoi on ne permet pas à chacun et à chacune de travailler un peu moins longtemps? Donc ça, c'est une chose qui pour nous est fondamentale. Donc on défend à la fois la retraite à 60 ans, mais on défend aussi la réduction du temps de travail hebdomadaire, avec à la fois la réponse au chômage et à la précarité, c'est-à-dire qu'on partage le travail entre toutes et tous, et on réduit le temps de travail jusqu'à qu'on puisse justement éliminer le chômage et la précarité. Donc là on dit 4 jours, mais peut-être 3 jours, parce que les chiffres c'est des ordres d'idées en fait hein. On nous reproche des fois de ne pas avoir un programme chiffré, mais enfin ça, de toute façon il y en a plein qui chiffrent le programme, c'est facile, on peut mettre des chiffres, c'est pas compliqué à faire hein. Mais nous on donne des chiffres pour donner un ordre d'idées, mais ça montre aussi d'essayer de montrer en tout cas que la société elle est capable de faire autrement, de faire autre chose, et tout simplement c'est cette idée que oui, effectivement, on peut baisser le temps de travail et on devrait le baisser, et après ça paraît simple, basique, comme disait un chanteur de rap, et en fait c'est arithmétique. Moins on travaille, plus on peut partager le travail. Donc c'est ça, ces raisonnements-là. Donc on se rend bien compte que quand on discute d'un revenu pour toutes et tous qui permet de vivre décemment, quand on discute de la retraite à 60 ans et qu'on discute de la réduction du temps de travail, on se rend bien compte que ça pose un problème. C'est-à-dire que comment c'est possible? D'ailleurs, c'est pas mal de gens qui disent, mais bon, voilà, vous allez où trouver l'argent? Et ben ouais, ben nous on dit ben, que l'argent, on va le chercher là où il existe, là où il est. Et ça revient un peu à ce que disait Marc tout à l'heure, c'est les grosses fortunes. Et nous, on pense qu'on peut financer des mesures sociales aujourd'hui, mais ça suppose d'aller récupérer l'argent qui a été volé. Parce que, ah oui, c'est vrai que nous... Ouais, faut que je vous explique, on n'est pas tellement admiratif des riches. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut lire dans Challenge, c'est moi je lis Challenge tous les étés, j'adore Challenge, le numéro de juillet. C'est un des trucs que je rate jamais, quoi. C'est mon best-seller. C'est le classement des 500 plus grosses fortunes de France. Et les articles, bon, il y a le classement, hein, c'est là qu'on voit qu'il y a vachement d'argent. Et c'est là qu'on voit que la crise, elle fait pas que des malheureux, ce qui est quelque part et des fois un peu rassurant. Mais surtout, il y a des articles autour et qui sont très admiratifs des riches et de la richesse. Et ils expliquent, ils font des portraits. Alors, ce sont des gens très malins, des gens innovants, des gens qui ont de la réflexion, des gens qui travaillent beaucoup. D'ailleurs, les ultra riches, je savais pas, mais ils pensent pas au RTT comme nous. Enfin, ils sont pas obsédés par les week-ends, par les repos. Ils travaillent tout le temps. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent, parce qu'ils travaillent tout le temps, ils réfléchissent et ils sont au service des autres. Vous saviez ça? Parce qu'en fait, il y a une sorte de théorie qui explique. Enfin, c'est une théorie, c'est sérieux. Il y a des gens sérieux qui font ça. Ça s'appelle des experts. Il y en a beaucoup qui passent à la télé. Ils sont experts de plein de choses. Des fois, on ne sait pas trop, mais ils sont experts. Et ils expliquent qu'en fait, plus il y a de milliardaires, plus la société se porte bien. Parce qu'en fait, le truc, on ne savait pas, enfin, nous, on n'avait pas compris ça, le rôle social et collectif du milliardaire, c'est qu'en fait, il ramasse de l'argent et il le redistribue. Alors, ça s'appelle le ruissellement. Et je ne la connais pas. Alors, ce n'est pas le ruissellement, hein, je n'ai pas compris ce que c'était exactement. Mais le ruissellement, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui disent, plus il y a de milliardaires, plus la société ira bien, et plus moins il y aura de pauvres, en fait. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un peu l'inverse qui se passe, hein, du point de vue pratique, hein, c'est qu'il y a beaucoup de milliardaires, et les milliardaires toujours plus riches, mais en fait, ça correspond à un autre phénomène bizarre, où il y a plus de pauvreté. Et là, aujourd'hui, par exemple, il y a 8 à 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, on peut citer des tas de chiffres qui sont caractéristiques du niveau de précarité ou de pauvreté. Et donc, on voit qu'il y a un truc qui ne colle pas. En fait, le mécanisme, enfin, la théorie qui a expliqué que les riches, mais ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas du tout bien, même.